Nous retrouvons Luc Lavoie pour sa chronique. Mais Luc, bonjour.
Salut Jean-Luc.
Je suis très content de l'angle avec lequel tu vas nous parler de vaccination parce que c'est la dimension un peu mercantile et business de la vaccination, de ces géants des pharma qui arrivent avec des chiffres qui sont hallucinants, époustouflants.
Absolument incroyable. Pfizer, qui a fait une alliance avec BioNTech, une firme allemande, prévoit écouler cette année 33,5 milliards de dollars de vaccins. As-tu pensé à ça?
Oh! Tu sais, des fois, les opportunités sont belles.
Non, écoute, tu vois, à côté de ça, là, Pfizer, c'est là qu'il y a tout le débat. AstraZeneca, qu'on a tant détesté, n'est-ce pas?
Oui.
Il nous coûtait à peu près 5-6 piastres, OK, mm-hmm. par dose. Mm-hmm. Oui. Maintenant, on regarde qu'est-ce que ça coûte pour acheter du Pfizer. On n'est pas capable d'avoir les vrais chiffres parce que tous ces contrats-là sont recouverts, ont une clause de confidentialité assez importante. Néanmoins, à travers les branches, on a réussi à apprendre qu'on paye $24,80 pour le Pfizer. On paye $35, on parle de dose ici,
oui.
$35 pour le Moderna, alors que quand on parle d'AstraZeneca, on est en bas de $5 la dose. Alors moi, si je te parle de ça, là, une des raisons, c'est que toute cette histoire autour du AstraZeneca, la vitesse avec laquelle ils se sont fait accuser de ci et de cela, la vitesse avec laquelle on leur a tapé sur la tête, j'ai toujours cru... Je n'en ai aucune preuve, mais ayant travaillé dans ce genre de business-là, j'ai toujours cru qu'il y a quelqu'un qui a eu un mandat quelque part pour salir AstraZeneca, puis pour s'assurer que tout le monde entend dire que c'est mauvais. Puis là, on arrive à la vraie raison de tout ça. Ben, c'est parce que c'est super payant.
Ben.
Et en plus, il nous arrive, et là, je suis pas... Je veux dire, je le crois à peine. Tu sais, l'idée du troisième vaccin, là...
Ouais,
venu de qui, ça, tu penses? C'est pas venu des scientifiques de la santé publique, ni du Canada,
pas encore,
ni des États-Unis.
En tout cas, parce que disent-ils, quand on les consulte, on leur demande une troisième dose. Ah, il n'y a rien qui nous garantit que ça va être plus efficace ou moins efficace. Donc, c'est pas les scientifiques qui sont là.
C'est pas les scientifiques qui sont là, mais ceux qui poussent là-dessus, ce sont les lobby groups, le lobby qui représente Pfizer, qui est quand même une des plus grandes compagnies américaines. Eux autres ont commencé à tranquillement planter dans le sol une graine qui dit, là, écoutez, je pense qu'on va être obligé d'en avoir un troisième. Alors, j'ai pas fait le calcul pour toi, là, mais ça doit être... Alors, on les prend, mettons, à $24,80 pour multiplier ça par combien?
Ben oui, pour une première dose, là, pour je sais pas combien.
Bon sens, non. C'est incroyable.
Ceci ne veut pas dire, cependant, que le vaccin est une invention et que la COVID est une invention, mais c'est une opportunité.
Pas du tout.
C'est une opportunité, par exemple, pour des pharma.
Absolument. Puis je veux dire, ils vont en profiter pleinement. J'avais, entre autres, lu récemment l'histoire de l'inventeur de ce vaccin de Pfizer, la fameuse BioNTech, qui était en fait une petite entreprise dans le domaine pharmaceutique qui fait de la recherche et qui ensuite forge des partenariats avec des grandes pharma qui ont la capacité de produire puis de distribuer. Alors, quand tu regardes BioNTech, l'histoire de cette compagnie-là, tu as deux médecins qui forment un couple, en fait, un homme et une femme de Turquie, originaire de Turquie, pardon.
Okay.
Les parents étaient turcs. Eux, ils sont nés, je crois, en sol allemand. Ils ont tous les deux fait leurs études à Francfort et ont créé ce laboratoire-là. Puis ce monsieur-là, dont j'ai pas le nom devant moi, est devenu, en quelques mois, l'homme le plus riche de l'Allemagne. Plus riche que les propriétaires de Mercedes, de BMW, de Lufthansa et de tous les autres, c'est devenu l'homme le plus riche au monde.
Tu t'imagines? Parce que, Pharma s'est associé à lui, évidemment.
J'ai dit au monde. Je m'excuse, Jean-Luc, j'ai dit
au monde. En Allemagne.
En Allemagne, oui, en Allemagne.
C'est ça. Alors, ce gars-là, évidemment, a été approché par Big Pharma, qui est Pfizer, puis il a dit, regarde, on va le prendre, on va le produire, on va le distribuer, puis toi, tu as des redevances.
Quand on connaîtra tous les secrets, qui dit que BioNTech n'a pas été faire une sorte d'enchère, ils l'ont fait à un, ils l'ont fait à l'autre, tout à coup, il y en a un qui a mordu? On ne le sait pas, mais je te donne juste un chiffre. Sur le deuxième trimestre et sur l'ensemble de ses activités, le groupe Pfizer a réalisé un chiffre d'affaires de 18,9 milliards de dollars, presque le double d'un an plus tôt, plus de 92% plus. C'est absolument incroyable.
C'est une business qu'il ne faut pas que tu lâches quand tu es là. Hein?
Hey, monsieur!
As-tu des actions de Pfizer? Non?
Non, je n'ai pas d'actions de Pfizer. En as-tu, toi, Jean-Luc?
Pas toutes.
Bon!
J'en ai même pas de l'aspirine. J'ai rien. J'ai rien. Bon.
Et là, la vis se resserre, oui. Tu comprends, sur les gens qui veulent pas se faire vacciner.
Ben, c'est ce que j'allais te dire, là. Il y a un repli de la situation aux États-Unis.
Luc. J'allais dire, je viens juste avant d'entrer en onde, voir apparaître que Google, qui est un des très grands employeurs des États-Unis, va exiger de tous ses employés qu'ils soient vaccinés pour entrer au travail. Aux États-Unis, demain, le président Biden va annoncer que... la Maison-Blanche veut exiger que les employés fédéraux, les fonctionnaires du gouvernement américain...
Il y en a pas mal, de ça.
Oui, bien des millions. Hein, mm-hmm. Et qu'ils soient, évidemment, tous vaccinés. Et ça, ça fait suite à la décision annoncée par la Californie et par la ville de New York. Tu sais, quand on parle de la ville de New York, c'est presque la population du Canada en entier. Et il y a 300 000 fonctionnaires qui se voient contraints. C'est ça ou c'est la porte. Bien qu'aux États-Unis... Le président ne veut pas les mettre à la porte.
Non, mais il les met devant une échéance qui est de se faire tester régulièrement, je pense.
Oui, jusqu'à temps que ça devienne insupportable. C'est un peu ça, la méthode qu'on utilise. On ne force pas les gens à se faire vacciner, mais on leur dit, si vous ne l'êtes pas, là, vous allez trouver la vie longue.
Quelle est la pression que la France met pour que les citoyens, eux, se fassent vacciner? Est-ce qu'ils leur disent, si vous n'avez pas ça, on va mettre la passe obligatoire ou quoi, le vaccin?
Ben, en France, ils sont rendus plus loin que ça. C'est ce qu'a annoncé Macron la semaine dernière. Oui. C'est que si tu n'as pas ton passeport vaccinal, qui, lui, ne vient que si tu as les deux doses, si tu ne l'as pas, là, puis tu connais la France, là, pas de bar, pas de restaurant... Pas de café, pas de bistrot, pas de cinéma, pas de théâtre. Aucune de ces affaires-là va être ouverte à des gens qui n'ont pas eu la pleine vaccination. Va vite.
Ils ont-tu un taux de vaccination acceptable et intéressant en France, c'est sûr?
Ils sont rendus à ils viennent juste de dépasser le 50% de personnes vaccinées. Alors, l'extension du passeport sanitaire annoncée par Macron, justement, a provoqué un boom des prises de rendez-vous une première vaccination. Ça marche, la méthode contraignante. Le gouvernement du Québec, tranquillement, s'en va vers le plus de contraintes. Je les encourage d'y aller vite, parce que je pense que les gens sont pas prêts à commencer à revenir, puis on va à nouveau se confiner, puis tout ça. Alors, le gouvernement du Québec, comme les autres, comme la France, comme beaucoup d'autres dans le monde, comme le gouvernement américain devrait dire, tous nos fonctionnaires, pas seulement les travailleurs de la santé, tous nos fonctionnaires, tous nos policiers, tous ceux qui travaillent pour l'État... C'est ça ou vous rentrez pas au travail.
Parce que la réalité, au début, je parlais avec le docteur Desserts, qui est épidémiologiste. Lui, il dit, on n'y échappera pas là, à la quatrième vague, en tout cas, aux variants.
Aux variants, on ne peut pas y échapper. Le consensus.
On ne peut pas y échapper. On peut le retarder et c'est la double vaccination qui va faire en sorte que les effets de ce variant-là vont être moins importants, c'est tout.
Oui, voilà. Et on regarde ici au Canada, les choses vont plutôt bien, sauf en Alberta. Tu sais, l'Alberta a eu une drôle d'histoire avec la pandémie. Au début, ils tenaient le discours à la Trump. Écoutez, nous autres, on n'est pas là-dedans, là, puis nous autres, on croit pas à ça, puis ça a été ceux qui ont pris le plus de temps avant de mettre en place des mesures sanitaires pour contrôler la situation. Et ça a fait chuter dans les sondages le premier ministre Jason Kenney, qui va avoir beaucoup de difficultés à se faire réélire. Et là, il y a une flambée là, qui est en train de se passer. Le taux de reproduction de la COVID en Alberta est 30% plus élevé qu'au printemps. Alors, puis à ce moment-là, on rapportait 1500 nouveaux cas quotidiens en moyenne. Alors, on ne rit plus, n'est-ce pas?
Ben non. Suis très intéressé par les affaires américaines. Oui. Et hier, j'ai réécouté en reprise les témoignages des quatre policiers qui ont été sur la ligne de front lors de cet assaut sur le Capitole.
Ça frappait dans le dash, comme on dit.
J'ai été assez touché quand le gars dit, moi, j'ai fait l'Irak, puis j'ai eu moins peur en Irak que dans le Capitole. L'autre, il dit, c'est épouvantable, j'ai perdu connaissance, j'ai fait une crise cardiaque. On n'était pas là.
D'autres, il y a des gens qui criaient autour d'eux, prends-y son arme, puis tue-la avec ça. d'autres qui étaient des policiers noirs. Le mot en haine a été répété. J'ose même pas l'utiliser moi-même. Non. Racisme. Après ça, il y en a un des policiers à qui on a demandé, mais est-ce que, par exemple, il y avait Black Lives Matter, là, tu sais, le groupe là, qui veut défendre les droits des Afro-Américains, est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'il y avait des antifas? C'est ce que la gang de Trump avait dit. Le policier a dit, non, monsieur, c'était des partisans de Donald Trump et c'est tout. Alors, ça a été très percutant, mais comme tu le sais sans doute, ça mènera pas à grand-chose.
Ben parce non. Que c'est ça, le lien à faire entre l'incitation et la manifestation, l'incitation qu'aurait pu faire Donald Trump dans les minutes qui ont suivi cette marche vers le Capitole, la cause à effet, là, c'est pas réglé, ça, c'est pas fait comme preuve.
Ben d'abord, il faudrait que ça se fasse devant un tribunal, ben, mais c'est surtout que ce n'est pas une commission bipartisane, c'est une commission créée par le Parti démocrate, parce que les républicains ne voulaient pas s'y joindre. Ils ont réussi à aller chercher deux républicains qui, eux, sont en train de dire au sein du caucus républicain, attention, l'époque de Trump, c'est terminé. Donc, Mme Cheney, dont on a parlé beaucoup, M. Ratzinger, lui aussi, vont se joindre à cette commission, mais la commission n'aura pas le pouvoir à la fin de dire, on pointe le doigt vers un, puis on pointe le doigt vers l'autre, puis patati, patata. Quoi qu'il en soit, c'est un dossier essentiellement politique, mais j'espère que quelques-uns des Américains qui adoraient leur héros, M. Trump, vont avoir écouté ça un peu. Là, parce que normalement, policiers, militaires, droite, extrême droite...
C'est très respecté, ça, d'habitude.
Très, très respecté aux États-Unis. Et là, ben, les policiers qui sont venus témoigner, c'est « Oh boy, vraiment, si tu me dis que tu l'as écouté, nous pognait aux tripes de les écouter. »
Écoute,
gars,
quand le gars a tapé sur le bureau, là, puis qu'il les lèvres vibranlaient, tu voyais qu'il était très ému de cette situation-là, très blessé, encore en choc post-traumatique, à mon sens.
Ah oui, puis il y en a beaucoup qui ont quitté le service, qui ne peuvent pas s'en remettre. Puis il y a cette fameuse image, tu as dû la voir, là, c'est parmi les plus scandaleuses qu'on a vues, le gars, le policier qui est pogné dans
coincé
une...
Coincé sur la vitrine.
Sur la vitrine, puis l'autre essaye de le faire mourir en tirant après la poignée, puis tu le vois, puis tu l'entends hurler comme un animal. Tu dis, ben mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Bon. Moi, j'ai toujours été un grand admirateur des États-Unis, mais là, je te dis, là, oh boy.
Bon, écoute, toi là, qui a vécu dans l'univers politique, moi, quand les États-Unis se tapent les bretelles en se disant « Nous sommes le berceau de la démocratie », elle est malade, leur démocratie. Il y a un problème majeur. D'abord, pour le style de vote, c'est pas un vote universel, tu comprends. Il y a des États qui sont tout petits puis qui ont beaucoup de représentants. Il y en a d'autres qui sont grands puis il y en a deux.
Ça, c'est structurel.
C'est structurel. Après ça, tu as la façon dont les chambres fonctionnent là-bas.
Ouais.
Et puis là, ils sont jamais capables d'en arriver à un consensus. Ils sont tellement ancrés dans leur position gauche-droite, démocrate-républicain, qu'on dirait qu'il n'y en a pas de compromis, à moins qu'il y ait un rapport d'intérêt pour l'une ou l'autre des formations politiques qui ferait une concession.
Oui, mais il n'y en aura pas. Et puis, effectivement, le système américain, c'est pas tant sa structure constitutionnelle qui assigne un rôle à une Chambre des représentants puis un autre au Sénat, puis ainsi de suite. C'est pas tellement ça comme la maladie qui ronge cette société. Je veux dire, tu lis ce qui anime les partisans actuels de Trump, ça n'a pas grand-chose à voir ni avec la droite, ni avec le haut, ni avec le bas. C'est de la folie pure. Tu lis ça, puis tu dis, ben voyons donc. Et c'est pourquoi Mme Cheney et l'autre là, sont en train d'essayer de dire à leurs amis républicains, arrêtez, là, le phénomène Trump, il n'est pas là pour durer éternellement. Mais je pense, et là je vais terminer là-dessus, je pense que, moi je pense que ça ne se réglera jamais et qu'il reste à un moment donné la possibilité que la violence reprenne. J'en suis très, très, très malheureux, mais c'est là qu'on en est.
Oh, j'espère que non, parce que là aussi, c'est pas juste dans le COVID qu'il y a de la contagion, tu comprends? Ça aussi, l'idéologie, ça devient contagieux.
Mais qu'est-ce que tu veux, ces gens-là qui continuent de croire à Trump regardent uniquement Fox News, puis il y en a un autre dont j'oublie le nom, le OAN.
Oui.
Alors, eux autres, ce que nous autres, on est en train de se dire, ce qu'on est en train de lire des extraits de ce que les policiers ont dit, ils voient pas ça. Si t'écoutes Fox News le soir, tu vas te dire, tiens, les démocrates ont essayé de mal faire paraître notre homme, blablabla, c'est ça. Donc, comment tu fais pour parler à une population sur une base des faits, sur une base objective, quand t'en as la moitié qui n'entendent pas les mêmes faits? Alors, tu sais, ça tourne en rond, puis les fusillades se multiplient, puis il n'y en a jamais eu plus qu'il y en a présentement aux États-Unis, puis c'est tous les week-ends, puis c'est partout. Écoute, ce grand pays a besoin de se...
comment dire?
Ouais, une petite cure de je ne sais pas quoi, se ressourcer, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le dire non plus, mais ça ne va pas bien.
Merci beaucoup, Luc Lavoie.
Au plaisir.
Merci, Jean. Au revoir. On se retrouve demain, bien sûr. On s'arrête pour une pause. Je reviens avec le président de l'Ordre des chimistes du Québec, parce que c'est quelque chose d'assez important qui est en train de se passer dans les coulisses, et ça a l'air d'être un genre d'omerta autour de cela, du moins du côté de Santé Canada.